France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les carnets de campagne passent la semaine dans le Cher, avec le jeu des 1000 euros qui a posé sa valise de questions dans le village de Blancafort. Et aujourd'hui, je donne la parole à une femme qui a créé une nouvelle filière agricole. Il faut prendre la mesure du défi qu'elle a relevé. Reprendre une ferme, on y cultivait du blé, de l'orge, du colza, comme partout autour, et se lancer dans le quinoa et le pois chiche, des cultures qui demandent moins d'eau et moins de produits chimiques, autrement dit des produits adaptés aux enjeux climatiques. Évidemment, tout le monde était sceptique autour, mais aujourd'hui, 10 ans après, eh ben ça marche. Et une cinquantaine d'agriculteurs se sont associés à la démarche. La dirigeante de Berry Graines est mon invitée dans quelques instants. Mais d'abord un appel important, un appel au don qui ne va pas vous coûter un seul centime. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Je dis souvent que cette émission donne la parole à ceux et celles qui se remontent les manches, qui œuvrent pour un monde meilleur avec des initiatives citoyennes. Eh bien aujourd'hui, je vous propose de relever une seule manche pour donner votre sang. Promis, la piqûre ne fait pas mal. L'établissement français du sang lance un appel dans les carnets de campagne. Bonjour Hervé Menrad.
Bonjour.
Merci d'être en direct sur France Inter. Vous êtes directeur de la collecte et de la production à l'EFS. Vous avez besoin de dons de sang tout le temps, mais en ce moment, encore plus que d'habitude?
Oui, on a eu un mois de janvier où on a eu des besoins importants dans les établissements de santé. Donc nos réserves ont fortement diminué. Donc on mobilise les donneurs actuellement. Donc on a des réserves qui remontent un petit peu, mais on reste très très bas sur des groupes, notamment les O négatifs et B négatifs. Et le O négatif, c'est le groupe sanguin universel que tout le monde peut recevoir dans des situations d'urgence. Donc on en a besoin de beaucoup. Et il a des grosses difficultés. Ces réserves ont beaucoup de difficultés à remonter. Donc on a besoin d'une mobilisation des citoyens pour nous aider à remonter nos réserves.
Quel est l'état des stocks? À quel point la situation est-elle alarmante pour vous?
On a des couvertures qui sont très faibles sur le O négatif. On est autour de 8-9 jours de couverture. Donc on est au niveau de nos seuils d'alerte. On n'est pas dans nos seuils de fonctionnement habituels. Et donc ça crée des tensions pour répartir les produits partout sur le territoire. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de cette mobilisation.
Partout en France donc?
Sur le O négatif, partout en France.
On rappelle bien sûr que le don du sang est bénévole en France et qu'il est précédé d'un entretien médical. Combien de temps dure le don au total?
Alors, un don de sang, ça va durer un peu moins d'une heure sur place, entre l'accueil, le petit questionnaire, un entretien avec un personnel. Le prélèvement va durer 12 minutes et après, une collation pour se restaurer avant de repartir.
L'établissement français du sang va très bientôt lancer une campagne nationale sur un don qui est moins connu que le don du sang, c'est celui de plasma. Qu'est-ce que le plasma, Hervé Menrad, et à quoi sert-il?
Alors, le plasma, c'est la phase liquide du sang dans lequel on trouve les globules rouges et les plaquettes, mais aussi beaucoup de protéines. Et donc, on prélève le plasma en le séparant des globules rouges et des plaquettes. Et lors du prélèvement, on rend vos globules rouges et vos plaquettes, on ne prend que le plasma. Et ce plasma, on en extrait certains composants, certaines protéines pour en faire des médicaments qui sont de plus en plus utilisés, qui répondent à des besoins importants de patients. Et ces besoins augmentent. Donc, on a besoin de prélever plus de plasma pour pouvoir faire plus de médicaments à destination de ces patients qui en ont besoin.
Voilà, une prise de sang, donc une machine qui sépare le plasma des autres composants sanguins et qui ensuite restitue les autres composants au donneur ou à la donneuse.
Tout à fait. Oui. On ne vous prélève que ce qui est nécessaire dans ce cadre-là, que le plasma, et on vous rend les globules rouges et les plaquettes.
Le don de plasma, il faut peut-être le préciser, est un peu plus long que le don du sang et on peut donner plus souvent son plasma que son sang.
Oui, le plasma, on peut le donner tous les 15 jours, puisque comme on ne prend que le plasma, vous n'avez pas besoin de régénérer vos globules rouges et vos plaquettes, puisque vous les gardez, et donc vous avez possibilité de donner plus souvent.
Qui est concerné par le don de plasma?
Alors, il faut avoir entre 18 et 65 ans, se présenter sur une de nos maisons du don. Et puis, ça concerne toutes les personnes qui vont être éligibles, qui n'auront pas de contre-indication médicale. Comme pour le don du sang, à peu près, on est sur le même type de périmètre.
Peut-être faut-il insister sur l'utilisation que vous faites ensuite de ce plasma. À quoi ça sert?
Alors, il y a des plasmas qu'on va garder à l'EFS et qui seront transfusés tels quels. Et puis, il y a l'autre partie qui sert à faire des médicaments, qui est donc mis à destination du laboratoire français du fractionnement et qui va séparer le plasma en différents produits, qui va séparer toutes les protéines qui sont présentes dans ce plasma pour en faire des produits extrêmement spécifiques qui vont servir à soigner différentes pathologies.
Bon, on traverse un épisode de grippe. Signalons aussi que c'est pas le moment de donner si on est malade, Hervé Menrad.
Oui, après un épisode infectieux, il faut attendre 15 jours après la disparition des symptômes pour pouvoir venir donner en toute sécurité sur une de nos maisons du don sur la France.
Voilà, pour trouver un lieu où donner près de chez soi, rendez-vous sur le site don200.fr et on a mis bien sûr un lien sur le site de l'émission Carnet de campagne. Merci beaucoup Hervé Menrad.
Merci à vous, bonne journée.
Directeur de la collecte et de la production à l'établissement français du sang. Bonne journée.
France Inter, carnet de campagne.
Faire pousser des pois chiches et du quinoa dans le Berry. L'idée aurait pu surprendre il y a encore quelques années, mais une poignée d'agriculteurs s'est lancée dans ce pari d'avenir face au changement climatique et au souci d'économiser l'eau. Et c'est une filière qui est née. Bonjour Marion Snessens.
Bonjour.
Vous êtes la cofondatrice de Berry Graines, entreprise basée à Néronde, entre Bourges et Nevers. Vous êtes ingénieure, tout comme votre associé et mari. Et vous avez repris il y a 10 ans la ferme de vos beaux-parents. Comment est née l'idée de tester dans cette ferme de nouvelles cultures?
Eh bien, l'idée, c'était déjà de reprendre en main notre métier et donc de décider de ce qu'on voulait vendre, à qui on voulait le vendre et à quel prix on voulait le vendre. Ça, c'était déjà l'idée de base. Et puis aussi de se diriger plutôt vers des systèmes de, enfin vers des cultures un peu plus vertueuses et des cultures plus d'avenir en termes de résistance aux aléas et puis de consommation aussi de d'intrants quoi.
Et c'est ainsi que vous avez testé le quinoa notamment. Que produisait-on dans cette ferme auparavant?
Eh ben quand on a repris, c'est une ferme classique pour le département avec blé, orge, colza, tournesol et puis avec un troupeau de vaches à viande qui est toujours présent d'ailleurs.
Et aujourd'hui, Berry Graines, ce sont plusieurs exploitations. Hein. Combien d'agriculteurs sont embarqués dans votre démarche?
Eh ben aujourd'hui, on travaille avec une cinquantaine d'agriculteurs, alors majoritairement Cher et puis région Centre-Val de Loire, puisque en fait, voilà, on a développé l'activité depuis 2015. Donc, qui dit développement d'activité, dit développement de volume et donc de surface. Et donc, on a à partir de 2018, on a commencé à faire appel à d'autres agriculteurs autour de chez nous. Et donc, voilà, ce qui permet de pouvoir aussi diversifier les cultures. Donc, chaque agriculteur cultive une, deux ou trois espèces différentes chaque année. Qui viennent ensuite nous livrer à la moisson. Et ensuite, du coup, nous, sur notre site, on a investi dans des équipements pour réceptionner, stocker, nettoyer, trier, conditionner toutes ces petites graines et ensuite les commercialiser.
Ça n'est pas rien hein, de lancer une nouvelle filière agricole sur un territoire. Est-ce qu'il a été parfois difficile de convaincre les agriculteurs?
Eh ben oui, au début, forcément, on arrive avec le quinoa en tout cas qui n'existait pas du tout dans le département et pas dans la région. Donc, il a fallu faire ses preuves et voilà, avec quand même des techniques de culture différentes, avec du coup beaucoup moins, en tout cas en conventionnel, beaucoup moins de chimie aussi, parce que c'était voilà des cultures récentes sur lesquelles voilà il y a peu de recul. Donc, on a essayé voilà de trouver plutôt des solutions alternatives, notamment au niveau du désherbage par exemple. Donc voilà, il a fallu faire ses preuves et on l'a montré que c'était possible. Et donc pour ça, on les a accompagnés techniquement et on a aussi, on les a aussi rassurés en proposant des contrats au démarrage sur plusieurs années avec des prix garantis, etc. Donc voilà, forcément, les premières années ont été un peu plus compliquées. Et puis après, une fois que c'est lancé, c'est mieux.
Le quinoa, c'est un produit riche en protéines végétales et qui a besoin de peu d'eau et de peu d'engrais hein, pour pousser. Est-ce que vous diriez que c'est la graine du futur, Marion?
Alors, c'est pas la seule, il y en a plein d'autres, mais en effet, nous, on axe vraiment des cultures qu'on appelle plutôt à bas niveau d'intrants, c'est-à-dire des cultures qui ne nécessitent pas d'irrigation et qui, en effet, ont peu de besoins en termes de d'engrais et de produits phytosanitaires. Donc, oui, logiquement, qui pour nous nous semblent plus adaptés pour les années qui arrivent. Oui.
C'est un produit qui vient d'Amérique du Sud. Hein. Y a beaucoup de différences entre le quinoa français et le quinoa bolivien, par exemple?
Alors pour un consommateur lambda entre guillemets, pas trop, mais après pour nous, oui, c'est des variétés qui sont différentes, des variétés qu'on fait pousser nous en Europe, qui ont été adaptées à nos latitudes. Donc voilà, en termes de taille, de couleur, de goût, il y a quand même des différences. Donc on peut dire voilà, les variétés en tout cas françaises sont quand même différentes de celles qu'on peut importer d'Amérique du Sud, oui.
C'est une plante qu'on connaît encore peu, hein, disons-le, en France. À quoi ressemble le quinoa quand il pousse ?
À pas grand-chose de connu, donc faut vraiment le voir. C'est assez joli, en plus, avec pas mal de variations de couleurs durant tout le cycle. Donc c'est intéressant aussi pour nous de pouvoir développer des nouvelles cultures. C'est que au niveau agronomique, c'est bien, mais au niveau aussi, c'est assez aussi plaisant dans les champs. Ça change un peu chaque année. Les paysages.
Quelle est la proportion de quinoa consommée en France, qui a poussé en France aujourd'hui ?
Elle est encore faible, hein. Il y a à peine un tiers de ce qui est consommé en France qui est cultivé en France. Le reste est du coup majoritairement importé de Bolivie et du Pérou. Donc nous, c'est un peu notre volonté, c'est de pouvoir peu à peu remplacer ces volumes importés par de l'origine France pour pouvoir proposer des produits qui ont fait moins de kilomètres et puis qui valorisent nos territoires et nos agriculteurs. Quoi. Mmh.
Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est d'augmenter les volumes. Ça va être difficile pour vous ?
D'augmenter les volumes produits, non. À partir du moment, nous on travaille beaucoup en filière, ça veut dire qu'on sème ce qu'on est capable de vendre. Donc une fois voilà qu'on a trouvé les clients, qu'on s'est mis d'accord sur les aspects un peu qualité, sur les volumes et les prix surtout, ça nous permet d'avoir de la visibilité et donc de proposer du coup les contrats de production correspondant à nos agriculteurs et c'est comme ça qu'on arrive à développer une filière. Donc on le fait de manière pragmatique et voilà, quand c'est fait comme ça, généralement, ça fonctionne plutôt bien. Mais on est toujours embêté voilà, avec les produits d'importation et avec des prix qui sont beaucoup plus faibles que les nôtres. Et donc, voilà, c'est notre frein principal.
Je le disais, ça fait 10 ans que vous vous êtes lancé dans la création de cette filière dans le Berry. Est-ce que vous avez vu évoluer les regards que vous portait le monde agricole ?
Oui, parce qu'on perdure, donc du coup les regards changent, parce que voilà, au démarrage c'est beaucoup de questionnements sur est-ce qu'ils vont y arriver, est-ce que ça va marcher, ou ça marchera pas, parce que voilà, c'est nouveau, c'est des graines, etc. Donc c'était pas mal d'être un peu de jugement par rapport à ça au début. Et en fait voilà, vu qu'on est toujours là et que du coup voilà, on a développé l'activité, les regards changent plutôt en bien, donc. C'est positif pour nous, ouais, c'est encourageant.
Un peu moins de moqueries, donc, c'est ce que vous dites.
Moins de moqueries, ouais. Mais ça, c'est valable pour tout le monde, même par rapport aussi aux consommateurs. Hein. Les mentalités évoluent. On ne fait pas des graines pour les oiseaux. On fait des céréales, des légumineuses, des oléagineuses et des pseudo-céréales pour les humains qui ont énormément d'avantages pour la santé et qui, du coup, en ont aussi en termes de culture pour nos terres et pour notre environnement. Donc, il n'y a pas de quoi rire, donc voilà, faut juste expliquer les choses.
Pas seulement du quinoa d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres produits dans votre nouvelle filière.
C'est ça, d'un côté, nous, il faut diversifier nos champs pour des raisons agronomiques, mais il faut aussi diversifier ce qu'il y a dans l'assiette des consommateurs. Donc, on a développé du coup les légumineuses, donc les lentilles vertes qui sont quand même assez connues, les lentilles corail, les pois chiches, les pois cassés. Et ensuite, on fait aussi, surtout par rapport à la demande de nos clients, donc on a développé du petit épeautre, du tournesol décortiqué, du chia plus récemment. Donc, c'est assez large et on s'adapte vraiment voilà, beaucoup par rapport à la demande des clients.
Dans quelles assiettes finit votre quinoa, Marion, notamment dans un resto dont on a parlé récemment dans les carnets de campagne ?
Oui, exactement. C'est le restaurant Le 58 à Nevers qui a ouvert il n'y a pas très longtemps et avec qui on travaille de manière très, très intéressante et on a un partenariat qui fonctionne bien, oui.
Un restaurant qui ne propose que des ingrédients qui ont poussé à moins de 58 kilomètres du restaurant. Et l'émission est disponible, bien sûr, en podcast sur l'application Radio France. Merci beaucoup, Marion Snessens, dirigeante de Berry Graines dans le Cher.
Merci à vous.